France Culture.
Esprit de justice qui ce soir va s'intéresser à la police au quotidien en compagnie d'un commissaire de police, ça va de soi. J'ai toujours pensé, nourri par l'exemple de mon maître Jean Carbonnier, j'ai toujours pensé qu'un juriste accompli se devait d'être simultanément un bon technicien d'abord, c'est-à-dire de bien connaître le droit dans le but de l'appliquer justement dans tous les sens du terme, c'est-à-dire avec exactitude et mesure. Mais cette maîtrise technique doit nécessairement s'accompagner d'une réflexion, d'une prise de distance théorique avec ce qu'il fait en vue de comprendre le droit et les faits auxquels il s'applique comme un phénomène social qui répond à ses propres lois, qui ne sont pas juridiques mais d'ordre sociologique. Enfin, ces deux maîtrises pratiques et théoriques doivent être traversées, animées, orientées par des convictions. Tout exercice du droit est aussi un combat pour le droit. Toute intervention sociale est, quelque part, un acte militant pour un monde plus juste. Eh bien, ces trois qualités essentielles à quiconque prétend être juriste ou appliquer le droit me semblent réunies chez mon invité de ce soir. Mon invité de ce soir, Abdelkader Haroun, commissaire général de police à Roubaix, et qui a lancé aussi l'un des premiers diplômes universitaires, un DU comme on dit, de criminologie à l'Université de Lille, et qui a créé aussi l'association Chemin de la Réussite, qui parraine des jeunes méritants issus de milieux défavorisés. Et avec le commissaire Haroun, on va parler ce soir de ses engagements, mais aussi bien sûr de la police au quotidien.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Je voulais justement partir de votre expérience, Abdelkader Haroun, partir de votre expérience de la police au quotidien, ce que vous avez fait, ce que vous faites depuis de nombreuses années, plus de 30 ans aujourd'hui.
Oui, alors tout d'abord, je voulais saluer tous les auditeurs et auditrices de France Culture que j'affectionne tout particulièrement.
Oui, parce que vous connaissez ce public qui vous connaît déjà.
Tout à fait.
Dans le cadre, on peut le dire, dans le cadre d'une émission à voix nue qui vous a été consacrée il y a quelques années maintenant.
Il y a à peu près un an, et, voilà. Les pieds sur terre.
Et les pieds sur terre. Donc on va plus élaborer ce soir ces questions sur un moment où on parle beaucoup de sécurité et on en parle avec des idées reçues, des idées qui trop rapides. Vous, commissaire Haroun, c'est le quotidien. C'est la vie des gens, qui est traversée par la violence, soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime.
Alors tout à fait, j'ai pratiquement fait toute ma carrière dans les commissariats, et notamment des commissariats dans des cités, dans des endroits un peu difficiles. Et je pense que c'est vraiment l'endroit où la police est le plus utile. On fait généralement une différence entre le grand banditisme les infractions qu'on peut qualifier, que certains qualifient de mineures. On met beaucoup de moyens pour apporter des solutions aux narcotrafiquants au grand banditisme, et c'est tant mieux. Mais on n'oublie pas aussi ce que j'appelle la délinquance du quotidien.
Oui.
C'est-à-dire des gens qui souffrent d'incivilité, des gens qui souffrent de tapage, des gens qui souffrent...
Du trafic de drogue aussi.
Du trafic de drogue également, oui. Au quotidien, parce qu'ils habitent en bas d'un immeuble où il y a de la drogue ou devant une école. Donc moi, c'est ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est effectivement être au service de ces gens qui ont rien demandé du tout, sauf de vivre dans de bonnes conditions, dans un État républicain. Et voilà mon engagement au sein de la police nationale.
Vivre dans des bonnes conditions, mais ces bonnes conditions, elles ne sont pas toujours réunies dans des grandes cités dans lesquelles vous avez travaillé, un peu partout en France, notamment dans le Nord. Il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et la délinquance et l'insécurité, ça affecte d'abord les pauvres gens.
Alors, moi, j'essaie de pas oublier également les personnes qui habitent dans les zones rurales, où vous savez que même aujourd'hui, aucune zone n'est épargnée par ces difficultés. La sécurité est un droit pour tous, d'autant plus quand on n'a pas d'argent.
Oui.
puisqu'on ne peut pas se payer des systèmes d'alarme, on ne peut pas se payer un garage.
Et on ne peut pas mettre à distance les autres. On est dans des grands ensembles, on est condamné à vivre avec tout le monde.
Alors, je ne sais pas si le terme est bien choisi, condamné
oui,
à vivre.
Oui, c'est vrai, il est maladroit.
Je pense que l'objectif, c'est de pouvoir vivre dans un endroit, quel qu'il soit, de façon sereine et dans le respect mutuel. Et l'objectif, c'est de faire en sorte, justement, que les personnes qui n'ont pas envie de s'insérer dans ce schéma-là, qu'on puisse apporter des solutions pour faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire, ou en tout cas... leur faire prendre conscience qu'à un moment donné, il vaut mieux que respecter le,
bien sûr,
respecter le
mais
droit.
Racontez-nous, commissaire Haraud, racontez-nous le quotidien, justement, ce quotidien dans lequel vous intervenez, les incivilités plus graves, le trafic de drogue, ces actes de délinquance qui pourrissent la vie des gens, comme on dit.
Alors, la vie d'un commissariat est différente en fonction des endroits où il est implanté. Moi, je vous donnerai simplement l'exemple d'une grande ville. Je suis à Roubaix. Le quotidien, c'est un quotidien qui est lié au fait que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont les dernières statistiques du mois de décembre. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Nous avons des quartiers... pour lesquels nous avons 30% de chômeurs, une grande diversité sociale. Donc, ce qui signifie que vous avez de la délinquance qui est liée à ce schéma-là. Mmh. Donc, paradoxalement, vous avez également des endroits qui accueillent des entreprises, des start-up qui sont cotées en bourse avec des millions d'euros de capital. Vous avez le OVH, l'hébergeur de chez Google. Donc vous avez énormément d'atouts. Et vous avez également toute cette frange de d'une population qui est déshéritée et pour lesquelles... moi, j'estime qu'on a, nous, une obligation. Cette obligation, c'est de pouvoir leur garantir la sécurité. Par exemple, vendre de la drogue à n'importe quel endroit, c'est inadmissible, mais vendre de la drogue devant une école ou une crèche ou des services sociaux, c'est d'autant plus inadmissible.
Bien sûr. Voilà.
Et vous avez donc la délinquance du quotidien, c'est ça. Ce sont des personnes qui viennent vous voir parce qu'on leur a brûlé leur voiture, alors qu'ils n'ont pas d'argent pour en racheter une autre. Donc on a mis en place, au niveau du commissariat, mais ça existe dans pratiquement tous les commissariats de France, on a mis en place un pôle social.
C'est-à-dire un pôle social.
C'est-à-dire que dorénavant, quand les personnes viennent déposer plainte au commissariat, nous avons une psychologue qui la prend en charge automatiquement, y compris pour les atteintes aux biens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a été victime d'un cambriolage, et qui a été complètement traumatisé.
Oui, oui.
Vous avez des personnes qui sont victimes de vols par ruse et qui sont traumatisées par le fait d'avoir perdu leurs économies. Donc nous avons une psychologue, nous avons une assistante sociale qui est chargée de monter des dossiers pour des personnes, par exemple, qui cherchent un hébergement parce qu'il y a eu un problème de violence conjugale ou une séparation qui se passe mal. Donc on essaie de leur trouver un hébergement. Et vous avez une juriste, l'association, la CIAVIC, qui montent des dossiers d'indemnisation. Donc vous avez...
Tout de suite, dès le dépôt de la plainte.
Voilà, dès le dépôt de la plainte, on leur fait cette proposition-là. Et donc ça correspond à un besoin. C'est le ministère de l'Intérieur qui a mis en place ce dispositif. Donc ça correspond tout à fait à un besoin. On s'adapte à la population pour leur apporter toute l'aide possible.
C'est ça. Parce que, en fait, ce que vous décrivez, ce pôle social, ça répond à cette fameuse question que posent les victimes de violences intrafamiliales. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais à la sortie du commissariat? C'est très, très concret.
C'est exactement très concret. On a aussi mis en place un partenariat avec les bailleurs sociaux, notamment Villogia, pour ne pas la citer, qui essaie de garder quelques logements que l'on peut mettre à disposition des personnes qui sont victimes de violences conjugales de façon temporaire. Mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions également par ce biais-là. Donc vous voyez, c'est un accompagnement qui est destiné à faire en sorte d'essayer de j'allais pas dire de diminuer cette souffrance, parce qu'une plainte, c'est toujours une
Bien
souffrance,
sûr.
mais en tout cas de faire en sorte d'accompagner le mieux possible la personne qui en est victime.
Alors on associe souvent la délinquance aux jeunes, ce qui est vrai, mais en l'occurrence pour les violences familiales, les violences intrafamiliales, c'est moins vrai. Il n'y a pas que les jeunes, malheureusement, il y a parfois des relations très 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 longues. Qu'est-ce que les jeunes, quel regard vous portez avec votre distance de commissaire depuis maintenant 30 ans dans différentes zones?
Alors moi, je partage pas tout à fait cet avis sur la jeunesse, parce qu'effectivement, on part du principe que souvent les jeunes commettent des infractions pénales. À mon avis, c'est quand vous reprenez des statistiques concernant la délinquance du mineur, on en a à peu près 25% de délinquance de mineurs.
Ah oui, 25%.
25%, vous voyez.
Oui, c'est donc c'est un cas.
Voilà, mais on a quand même une grosse majorité qui 75% qui n'est pas réalisé par des mineurs.
Mais les mineurs, ça fait peur. Les mineurs, c'est ce qu'il y a de plus bruyant, c'est ce qu'il y a de plus sont des il y a peut-être une spécificité de la délinquance des mineurs, plus provocant peut-être.
Alors, généralement, on a appris quand même à se méfier de ces idées un peu reçues. Il faut savoir que je vous parle du grand banditisme, oui, les narcotrafiquants, leur objectif, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc, ils achètent le silence dans les quartiers. C'est-à-dire que quand ils ont ce qu'on appelle, dans le jargon policier, des plans de deal... Ils font en sorte qu'il n'y ait pas de délinquance dans le quartier, qu'il n'y ait pas d'agression.
Ah oui, le deal correspond à une sorte de tranquillité malsaine.
Tout à fait. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de faire en sorte, quand la police arrive, d'avoir des comportements respectueux, qu'il n'y ait pas de rapport de force avec les services de police, de façon à pouvoir tranquillement vendre leur drogue. Alors, on n'est pas dupes, hein. Mais c'est simplement pour combattre cette idée reçue que les jeunes sont plus bruyants ou commettent plus d'actes de délinquance. Enfin, moi, je ne suis pas dans ce schéma-là.
Oui. Mmh.
Au contraire, hein, puisque moi, comme vous le savez, j'interviens également à l'université, donc par principe avec des jeunes. Et moi, j'ai beaucoup plus une vision positive de la jeunesse qu'une vision négative qui se caractérise par une extrême minorité dans des quartiers, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de s'insérer.
C'est ça. Cette représentation qu'on appelait autrefois le noyau dur de la délinquance, qui ne cherche pas à s'insérer et qui commence une carrière délinquante.
Alors, si on va un peu plus loin dans la réflexion, je pense que il faut prendre un peu plus de temps pour pouvoir expliquer la difficulté rencontrée.
Voilà. Allons-y, prenons le temps.
Le principe, c'est qu'on n'est pas du verbe naître délinquant.
Oui.
C'est pas parce que je suis issu d'un milieu défavorisé, j'ai 8 ans, 9 ans, 10 ans, tiens, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ben, tu seras délinquant. Il n'y a pas de déterminisme là-dedans. Donc, vous avez, par contre, ce qui est pris en compte, c'est la théorie darwinienne, hein, c'est l'influence du milieu. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est-à-dire que quand on vit dans un milieu criminogène, on a de grandes chances de sombrer dans la délinquance. Quelle est la situation actuelle ? Vous avez des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles, hein, faut pas se leurrer, souvent dans des quartiers qu'on appelle politique de la ville, quartier de reconquête républicaine. Peu importe l'appellation. Vous avez ces jeunes qui sont dans ces quartiers, et là, il y a ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce que je m'investis à l'école, mais le problème, c'est que c'est un sacrifice, il faut faire preuve de résilience. C'est-à-dire, quand on n'a pas beaucoup de moyens et quand on s'investit à l'école, les résultats, on les voit pas tout de suite, quoi.
Oui, la balance est assez défavorable pour les institutions.
Tout à fait. Ou alors, deuxième possibilité, c'est ce que j'appelle le mimétisme. C'est-à-dire, vous avez des jeunes qui ont 14-15 ans, ils roulent avec une moto, ils ont des vêtements de marque de grands couturiers, et ils ont de l'argent. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Donc, si on a suffisamment de valeur et d'éducation, bien évidemment, on privilégie l'école. Et vous avez toute une frange de la population, effectivement des jeunes. Et là, on pourrait reparler de la question de la prise en charge de la délinquance des mineurs en France.
Oui, oui.
Vous avez des jeunes qui sont utilisés par des narcotrafiquants de façon à pouvoir alimenter des points de drogue, revendre de la drogue. Moi, j'ai des exemples très concrets où vous avez un jeune de 11 ans qui vendait de la drogue sur un endroit déterminé. Vous avez un père de famille qui venait en voiture d'une quarantaine d'années qui va lui acheter de la drogue. Il ne se pose pas la question comment ça se fait qu'un jeune de 11 ans est en train de vendre de la drogue. Donc simplement, vous en avez un autre lors de sa pause, il travaillait dans le bâtiment, il était allé avec sa pelleteuse pour aller acheter sur un plan de drogue, aller acheter sa drogue également. Donc actuellement cette difficulté que vous avez des mineurs qui sont utilisés, exploités pour pouvoir...
Très jeunes.
Bien sûr, très jeunes. Des mineurs qui sont exploités, on leur propose 200 euros par jour pour revendre de la drogue. Donc effectivement, si on n'a pas un minimum de volonté, ils sombrent dans la délinquance jusqu'à la majorité.
D'autant que la famille peut les inciter, parce que 200 euros par jour, c'est pas rien pour des familles qui sont dans le dénuement.
Ouais, mais je pense pas que ça soit. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
Allez-y. Voilà, rentrons dans cette complexité, commissaire Haroun.
Moi, j'aime pas trop stigmatiser les gens, mais je peux essayer d'expliquer le constat.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des familles qui savent pas forcément ce que font leurs enfants. J'essaie pas d'excuser, j'essaie de ne pas généraliser.
Ça existe.
Voilà, j'essaie de ne pas généraliser simplement. Et donc, vous avez des familles qui, certains enfants font des actes de délinquance, et je vais vous donner des exemples très concrets. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop stigmatiser. Vous avez des jeunes qui font des actes de délinquance, pour lesquels les parents sont complètement débordés par la situation. Ils ne savent plus la gérer. Je vais vous donner un cas malheureusement dramatique où on avait un petit jeune, il avait 14 ans et sa spécialité c'était de brûler des voitures. Et le papa n'en pouvait plus. Il me disait au commissariat, j'échangeais avec lui, il me disait qu'il savait plus quoi en faire puisque lui était ouvrier dans le bâtiment et qu'il passait son temps à rembourser avec des saisies sur salaire les bêtises de son fils au niveau de l'indemnisation des parties civiles. Le point d'orgue, c'était l'incendie d'une crèche. Alors, vous voyez, on va quand même très loin.
Très loin. Ouais.
Et je me souviens de ce papa dans mon bureau, en échangeant avec lui, qui me disait « Moi, je veux que mon fils aille en prison. Bon, » vous savez très bien que c'est plus compliqué que ça.
Oui, surtout pour un très jeune de 14 ans.
Tout à fait. Donc, le magistrat-instructeur, il y a un magistrat-instructeur qui a été nommé pour ces violences urbaines. Le magistrat-instructeur a refusé... à juste titre, l'incarcération pour des raisons très particulières.
Ben parce qu'on sait bien qu'envoyer un jeune de 14 ans en prison, c'est aussi accélérer l'entrée dans la délinquance.
Exactement. Et donc, ce papa est arrivé à la maison avec son fils. Une demi-heure, une heure après, on a eu une intervention de police dans son domicile. C'était la maman qui avait appelé le commissariat pour nous dire « Écoutez, venez parce que mon mari va tuer mon fils ». Alors, je vais vous donner, je suis désolé de donner des détails un peu particuliers, mais ce papa, il avait pendu son fils par les pieds dans son garage et il lui avait éteint des mégots de cigarettes dans le dos pour lui faire prendre conscience que ce qu'il faisait était très grave. Il n'en est pas resté là. Il l'a fait déshabiller et il lui tapait avec un coup de balai sur le dos, il lui faisait manger des excréments qu'il avait récupérés dans les toilettes.
C'est quasiment des actes de torture.
Et le papa, donc, on l'a interpellé, il était placé en garde à vue, et lui a été incarcéré pour des mauvais traitements sur enfants. Alors, je vous donne... C'est un cas particulier.
Oui. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent.
Voilà, c'est simplement pour essayer d'expliquer qu'il ne faut pas non plus partir du principe que tous les parents... sont dans ce schéma de « allez-y, les enfants commettaient des actes de délinquance ». Par contre, on a le phénomène inverse. C'est-à-dire que vous avez des parents qui font semblant de ne pas comprendre que leur enfant vit dans la délinquance et du trafic de drogue. Tout simplement parce qu'indirectement, ils en profitent.
Mais oui, parce qu'ils payent des factures.
Entre autres, ils payent des factures. Il y en a un qui avait payé une cuisine équipée à sa maman qui coûtait 10 000 euros avec l'argent de la drogue. Il avait également toute une collection de robes et de sacs de luxe pour les parents. Donc, en réalité, nous avons les deux cas de figure. C'est pour ça qu'il faut quand même être prudent dans la réflexion.
Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue sa discussion sur la police au quotidien en compagnie du commissaire Abdelkader Haroun, qui est commissaire général à Roubaix et qui a choisi de nous faire entendre cette musique « Honorer les morts, le chant du loup » de Marc Steintenfeld. Pourquoi ce choix, commissaire Haroun ?
Moi, je pense que les policiers, d'une manière générale, ce sont un peu des héros.
Oui,
et
du quotidien.
Des héros du quotidien, effectivement, ils font preuve d'abnégation. J'ai un souvenir, la semaine dernière, où j'ai un de mes policiers, il y avait un monsieur qui est tombé dans le canal en faisant une mauvaise chute, et il a plongé pour aller le chercher, et donc il a réussi à le ramener. J'en ai un autre, il y a 48 heures, deux autres qui ont poursuivi un individu dangereux. Il y en a un qui a eu les doigts sectionnés en passant par une fenêtre, et puis le deuxième également, à coup de matraque dans la fenêtre, il a eu des éclats dans le visage. Voilà, c'est ce que j'appelle des héros du quotidien, et moi je voudrais leur tirer, les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Et surtout qu'on a souvent affaire à des jeunes policiers qui sont dans des endroits difficiles. Et oui, je les compare à des héros. Parce que chaque semaine j'ai des blessés, et puis chaque semaine ils sont d'autant plus vaillants qui méritent qu'on les mette à l'honneur.
Oui, et ce qu'on ne sait pas toujours. Finalement, c'est frappant. C'est que les policiers souvent ont un sens très très aigu de l'honneur de leur fonction, de la mission qu'ils ont, de mission sociale qu'ils ont.
Tout à fait. Je pense qu'on l'oublie souvent. Le policier est vu simplement à travers les timbres amendes ou les excès de vitesse que l'on peut relever, alors que le policier du quotidien, comme je vous l'ai indiqué, c'est quelqu'un qui fait preuve d'abnégation et surtout un très grand sens du service public.
Mais, oui.
Très grand sens du service public.
Vous parliez de cette délinquance du quotidien et ces difficultés des jeunes et des familles, et cette dimension tragique aussi, hein, comme ce père qui ne sait plus quoi faire. La police de proximité, monsieur le commissaire, la police de proximité... Tellement regretté parce que c'est peut-être la solution à toutes ces difficultés.
Alors effectivement, moi je suis convaincu que il est important qu'on garde le lien avec la population. Vous savez, la population, j'ai la prétention de connaître un peu le territoire, puisque je les rencontre souvent, nous faisons régulièrement des rencontres avec police-population. Et vous savez, ce que veulent les gens, c'est pas forcément qu'on ait des policiers partout dans la ville, que l'on soit dans une situation sécuritaire. Tout ce que souhaite la population, en tout cas celle que je connais, c'est qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'intéresse tout simplement à elle. Et nous avons des patrouilleurs qui ont en charge. Ce que vous connaissez bien, la recherche du flagrant délit, la poursuite des délinquants. Mais moi, je pense qu'il est important que l'on ait un policier pour le citoyen. Le policier pour le citoyen, c'est ce qu'on appelle la police de proximité. Et moi, je m'honore et je remercie le ministère de l'Intérieur de nous avoir autorisé depuis le mois de septembre 2024... tout récemment, oui, à avoir mis en place une véritable police de proximité. Nous avons une dizaine d'agents, ça va encore se développer, qui ont pour objectif exclusivement de prendre contact avec la population, c'est-à-dire les écoles, les commerçants, et d'échanger avec elles. En clair, pour faire diminuer le sentiment d'insécurité. Effectivement, pour l'instant, c'est un concept qui est particulièrement encourageant d'après le retour que l'on a eu. J'espère pouvoir encore le développer.
Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que le sentiment d'insécurité, il diminue pas avec des Rambo, pas uniquement avec des policiers surarmés, des ninjas, mais qu'il intervient par le dialogue, le contact, avoir des visages, reconnaître les gens, reconnaître qui sont les policiers et pour les policiers, quelle est la population.
Alors, la police, c'est d'abord... une police qui est chargée de réprimer les crimes et délits. Ça, c'est prévu par la loi.
C'est sa mission. Et,
oui. Effectivement. Mais par contre, cette police de répression, elle doit obligatoirement s'accompagner, et je vais vous expliquer pourquoi, d'une police de la prévention. Ou alors, ce que j'appelle une police du sentiment d'insécurité. Pourquoi ? Ben, tout simplement, si vous allez voir le pharmacien ou la pharmacienne et vous échangez avec et vous lui demandez est-ce que tout va bien et qu'il vous dit oui, mais là-bas, à 50 mètres, il y a des gens qui vendent de la drogue. C'est bien beau d'échanger avec cette commerçante ou cette profession libérale, mais ça suffit pas. Par contre, si tout va bien dans le quartier et s'il n'y a pas de difficultés particulières, le rajouter de la police d'intervention, ça n'a pas forcément du sens. Par contre, avoir des policiers qui passent tous les jours dans le quartier pour lesquels les gens se sentent rassurés parce qu'ils se disent « Ah oui, demain, il y a le policier qui va être là, je vais lui en parler. » En clair, ce sont cette police de proximité va permettre d'accompagner le citoyen dans sa vie.
Oui.
Tout simplement, comme cela peut se faire en Belgique ou au Canada.
Bien sûr, mais c'est très intéressant de voir le spectacle aussi qu'offre cette police de proximité. J'étais la semaine dernière à New York, à Brooklyn. Et j'ai été très frappé de la proximité des policiers, des NYPD, le mythique NYPD, de voir leur proximité avec les éboueurs, avec la population. Ils se parlent, ils échangent des blagues, parfois des hugs même. C'est un spectacle qui est intéressant, une très grande ville qui peut faire peur, où il y a beaucoup de problèmes, et il y a ce qui est montré par la police du quotidien.
Tout à fait, mais il faut pas. Ce qui est important, c'est pas mélanger les rôles.
Non, bien sûr.
C'est-à-dire chacun sa mission.
Chacun sa mission. Et pourtant, il y a aussi des violences urbaines. Il y a aussi ces mouvements. Alors, je crois que votre ville n'a pas été épargnée, hein, par les violences urbaines. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène qui est relativement nouveau ?
Alors, je ne sais pas s'il est nouveau.
Non, il est nouveau, je veux dire, il y a une trentaine d'années, je ne connaissais pas ce phénomène dans les cités. En gros, c'est des années 2000 que ça commence.
C'est ça, ouais. Alors, concernant cette question des violences urbaines, on peut fournir... Enfin, d'après moi, suis pas un scientifique, j'ai pas fait d'études particulières. Par contre, je les ai effectivement vécues. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que on est plutôt, pour une grosse partie de ces violences urbaines, de délinquants classiques qui ont pour objectif de piller. Effectivement, c'est plus facile d'aller piller un supermarché quand on est 100 plutôt que d'aller à deux, on risque de se faire interpeller.
C'est-à-dire, le but, c'est le pillage.
Exactement, ça, c'est une évidence.
Ah oui.
C'est une évidence, le but, c'est le pillage. Ensuite, vous avez également des gens, pardonnez-moi l'expression, sur France Culture, mais des imbéciles.
Oui, c'est encore acceptable.
Voilà, des imbéciles, c'est-à-dire des gens qui... Enfin, des gens, on est plutôt dans une frange de population entre 12, 13 ans, 14 ans, qui brûlent des voitures pour faire comme tout le monde. Voilà.
Un effet de mimétisme.
Tout à fait, mais c'est plutôt une ambiance un peu festive. Vous voyez, comme tout le monde brûle, on se met à brûler. Et je vais vous donner une anecdote qui était un peu particulière. C'est qu'on avait réussi à interpeller un petit jeune de 13 ans qui avait brûlé une voiture, sauf qu'il s'est même pas rendu compte qu'il avait brûlé la voiture de ses parents. Vous voyez, c'est simplement pour vous expliquer le degré d'imbécilité. C'est, voilà. Et puis ensuite, vous avez... une frange de la population de ces émeutiers, pardon, qui sont carrément anti-républicaines. Cette frange de la population, donc anti-républicaine, et qui surtout ils souhaitent montrer leur haine de la France et des institutions.
Ça existe aussi, ça.
Tout à fait. C'était dans nos dernières violences urbaines qu'on a eues l'été dernier, il y a deux ans, où on avait des jeunes qui étaient par des paquets de 250, 200, 300 jeunes qui voulaient tuer des policiers.
Tuer des policiers, dans un rapport quasiment de guerre civile, alors.
Tout à fait, oui, c'était de la guerre civile avec des jeunes qui voulaient effectivement tuer des policiers. Et là, on pourrait parler également de la question de la réglementation, puisqu'on est dans une émission juridique. C'est tout simplement, et ça serait intéressant, de mener une réflexion sur ce qu'on appelle le crime des foules. Nous, notre grosse difficulté, vous le savez très bien, mieux que moi, c'est qu'en France, la responsabilité pénale est personnelle.
Oui.
On ne peut pas imputer des faits
à un groupe. C'est l'ancien article 314 de la loi perfide, la responsabilité collective, et ça c'est le problème. Oui.
Voilà. Sauf que la difficulté, quand vous avez des personnes pardon, qui sont cagoulées, ils sont 200, qui vous jette des cocktails Molotov et surtout qui vous tire dessus, on a quand même des difficultés en cas d'interpellation pour caractériser l'infraction. Donc c'est la raison pour laquelle ça serait peut-être intéressant de mener effectivement cette réflexion. Alors le but c'est pas d'arriver à un état totalitaire, c'est pas ça du tout, mais réfléchir ça veut pas dire qu'on condamne systématiquement, mais pourquoi ne pas faire évoluer le droit de façon à permettre de faciliter l'identification des auteurs, puisqu'il faut savoir aussi qu'in fine, il y a quand même une victime derrière. C'est-à-dire que...
Oui, il y a une victime derrière, et puis il y a une grande victime, c'est la collectivité nationale. C'est-à-dire, c'est aussi, on l'a bien vu, et c'est malheureusement dans les, la décadence aujourd'hui de la politique et de l'ambiance publique, il y a beaucoup, et on le sait, même par des enquêtes d'opinion, beaucoup les échos de ces émeutes urbaines de la fin du mois de juin, il y a maintenant près de 2 ans, dans lequel il y avait ce sentiment d'une perte de contrôle. C'est-à-dire, mais qui contrôle ces gens-là? Est-ce que c'est les parents? Non. La police, l'encadrement, l'école. On est même allé chercher des religieux pour essayer de... Et je crois que ça a quand même beaucoup marqué l'opinion publique, ça, Abdelkader Haroun.
Oui. Enfin, ça a marqué l'opinion publique. Je pense que ça a marqué tout le monde. Ça a marqué l'opinion publique, ça a marqué les institutions, ça a marqué les citoyens et ça a marqué les policiers aussi, puisque oui. les policiers étaient quand même en première ligne pour essayer de canaliser cette violence et interpeller les auteurs. Mais effectivement, je pense que ça sera toujours une blessure ouverte dans les institutions républicaines qu'on puisse avoir ces individus qui s'en prennent au symbole de la République.
C'est ça. Et pour lesquels on est relativement impuissant.
Alors, moi je dis pas ça. La police n'est pas impuissante. Voilà. Non. Sans vouloir donner des chiffres sur ces dernières violences urbaines, moi je pense que nous avons la police nationale, la gendarmerie nationale, nous avons permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de drames. Puisqu'il faut savoir qu'on était quand même dans des... Moi, dans ma carrière, j'avais jamais vu de violence ou de haine vis-à-vis des institutions ou des services de police.
Oui, et ça vous a surpris?
Oui, tout à fait. Je me souviens encore une soirée où on avait plus de 200 personnes en face de nous et on n'avait plus rien, on n'avait plus de grenades, on n'avait plus de munitions, on n'avait plus rien, quoi. Et donc, on en était arrivé à se demander, on avait demandé des renforts, donc ils arrivaient. Mais c'était quand même des situations insurrectionnelles. Vous apercevez que vous aviez des bandes d'émeutiers, des délinquants, c'est le terme, qui étaient en face de vous. Et c'était leur objectif, c'était certainement pas de quitter les lieux, mais d'affronter la police et de tuer du policier.
Ils cherchaient le contact.
C'est une évidence. Ils avaient même utilisé des techniques de guérilla. C'est-à-dire qu'ils prenaient des poubelles, des grands conteneurs poubelles. Ils avaient mis des masques sur le visage pour le gaz lacrymogène. Et ils nous poussaient les grandes poubelles, les conteneurs poubelles. Ils se protégeaient derrière et pour pouvoir forcer les barrages de police. Donc on n'était plus dans des émeutiers classiques. On était dans un climat insurrectionnel.
Chant berbère est venu déranger la ville. Une prière chantée par trois jeunes kabyles. Un chant berbère pour saluer l'ancien soldat, fils d'une guerre dont les blessures sont toujours là. Pas de drapeau posé sur le corps de cet homme, juste une photo de ses copains en uniforme, une vieille image qu'il a conservée toute sa vie, comme un hommage à ceux qui sont morts dans l'oubli. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Elle fait partie des grands silences qui entachent l'histoire de France. C'est une histoire qu'on ne raconte pas tous les jours. Ce chant berbère, c'est pas seulement un chant d'amour.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur la police au quotidien et qui s'intéressait aux émeutes urbaines et leur dimension insurrectionnelle avec le commissaire Abdelkader Haroun qui a choisi de nous faire entendre cette chanson « Ceux qui ont choisi la France ». Ceux qui ont choisi la France, Abdelkader Haroun, ça vous parle ?
Alors oui, ça me parle parce que nous, dans la famille, on a une tradition républicaine, puisque mon père a effectivement... Il est même allé plus loin, puisqu'il a... L'Algérie étant française depuis 1870, oui. Hein, c'est ça. Donc il a fait la guerre 39-45, hein, et ensuite il était ce qu'on appelait les supplétifs, oui. Les harkis, hein, oui. De toute façon pudique.
Oui.
Donc il a combattu pour la France contre le FLN. Et donc et ensuite on est revenu en France, métropolitaine, et là on avait nos parents nous ont toujours inculqué ce respect des valeurs républicaines, de la République, du drapeau français, des valeurs. Et on est rentré tous, soit dans la police, soit la gendarmerie, soit la magistrature. Hein. On est une famille de 9 enfants, mais on n'avait pas d'argent, on n'avait pas grand-chose, mais on avait des valeurs qui nous avaient été inculquées par la famille. Et donc voilà la raison pour laquelle j'ai souhaité rendre hommage aux policiers dans un premier temps avec une chanson. Et avec cette chanson, à ceux qui ont combattu avec la France et qui honorent le drapeau français.
C'est ça. Et alors, si je fais le lien avec l'expérience cruelle de ce climat quasi insurrectionnel des gens qui détestent la France, qui était majoritairement, quoi, je vous pose la question, c'est tout à fait politiquement incorrect, majoritairement des beurs, des jeunes issus de l'immigration.
Alors effectivement, c'est politiquement incorrect parce que
moi, j'ai pas. Mais ici, on est entre nous, on est à France Culture.
Voilà, moi, j'ai pas vérifié la nationalité.
Oui, oui. Ils étaient cagoulés en plus.
Qui étaient en face de nous, mais d'une manière générale, certains disaient la France, tu l'aimes ou tu la quittes.
Oui.
Hein, et je pense que ce slogan, même s'il est un peu excessif, on peut le reprendre. On n'a pas le droit d'être accueilli dans un pays et puis de se comporter de la sorte. On n'a pas le droit. Quelles que soient ses origines, quelles que soient ses opinions politiques, quelles que soient ses opinions religieuses, vous devez respecter le citoyen, quel qu'il soit, le droit au respect.
Mais comment expliquer cette haine de la France ?
Je pense que cette haine de la France, alors moi j'ai pas fait d'études scientifiques, oui. Je pense qu'elle est due à l'éducation et aux valeurs républicaines. Français, c'est une culture, c'est la nation. On a des valeurs, on s'identifie à la Marseillaise, on s'identifie à l'histoire. Quand vous rentrez à la maison et puis vous avez la parabole et puis vous écoutez vous écoutez la radio ou vous regardez la télévision d'un pays qui n'est pas forcément le vôtre et que vous passez votre temps à vous identifier à ces émissions où j'ai pas dit que c'était pas une chose à faire, mais il faut pas aussi oublier que la France a droit également au respect et que les Français ont également le droit au respect et que tout le monde sur le territoire français a droit au respect.
Est-ce que la France a été tendre avec eux ? Je pose la question avec... de manière avec ces jeunes. Est-ce qu'ils n'ont pas le sentiment que précisément cette promesse républicaine, elle n'a pas été honorée en ce qui les concerne ? Est-ce que ça vous semble quelque chose que vous pouvez entendre ça ou
Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce discours.
Justement.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce discours. La France, elle ne doit rien à personne. Ça, c'est mon postulat de départ.
Oui.
Tous les hommes et les femmes, je rajoute, naissent libres et égaux en droit. La France ne doit rien à personne, sauf le principe d'égalité. Ça, c'est le premier point. Le, ce n'est pas parce qu'on a des origines sociales modestes qu'on peut brûler des voitures ou qu'on peut aller voler chez le voisin. Et je vois pas ce que la France a à faire là-dedans. Comme je viens de vous l'indiquer, et je peux vous donner des dizaines d'exemples avec des personnes qui sont issues de milieux très très modestes et qui, pour autant, ont fait des études brillantes, ont créé des entreprises. Par contre, ce qui est important, c'est que la France puisse gommer, entre guillemets, les inégalités financières. Ce qui est le cas. Puisque moi, j'ai fait mes études grâce aux bourses de la République. Mmh. Si j'avais pas de bourse, je n'aurais pas pu faire d'études. C'est une évidence. Mais j'ai des bourses. Ce qui signifie que moi, j'estime que le contrat est rempli.
Alors, le contrat est rempli et en même temps, il faut sans cesse l'entretenir, ce contrat. Il faut l'entretenir et je pense à l'association que vous avez créée, hein, les Chemins de la Réussite. Vous avez créé une association pour permettre à des jeunes qui n'ont pas été favorisés par leur destin social, leur permettre de pouvoir accéder, de pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'esprit de cette association ?
Alors, effectivement, cette association s'intitule Les Chemins de la Réussite. Alors, c'est une association artisanale, oui. Dans la mesure où nous organisons des événements chaque année. Dans un lieu républicain, c'est-à-dire soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, soit des municipalités, soit des préfectures, la préfecture du Nord notamment. Le but de cette association, c'est de mettre en valeur des jeunes issus de milieux défavorisés. Alors attention, milieu défavorisé, ça ne veut pas dire que l'on prend en compte les considérations religieuses, ethniques, c'est simplement des difficultés sociales. Et notamment des personnes issues de milieux ruraux, qui ont également les mêmes difficultés. Par contre, le but de cette association, c'est de valoriser le mérite. Le mérite. C'est-à-dire que si la personne n'a pas prouvé qu'elle essayait de s'en sortir, on ne l'aidera pas.
C'est la raison. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, l'association, les chemins de la réussite t'aideront.
Et donc, on essaie de faire parrainer chaque année une centaine de jeunes par des personnalités. On a des ministres qui parrainent des jeunes. La préfecture, le préfet de région, pour ne pas le citer, parraine également des jeunes qu'on lui a proposés, des sénateurs, des députés, des chefs d'entreprise. Alors, pourquoi faire parrainer ces jeunes par des personnalités ? Ben, tout simplement parce qu'on a constaté que vous avez beau être méritant, donc nous c'est plutôt des étudiants qui sont première année, deuxième année, donc à l'université ou dans les grandes écoles, on s'est rendu compte qu'ils avaient des difficultés pour trouver des stages. Ils n'avaient pas le réseau. Ou alors c'était des stages plutôt sur le territoire. Oui. Comme le territoire n'était pas trop valorisé, donc on était un petit peu dans une situation qui était un peu inextricable. Avec ce système-là, nous avons des jeunes qui vont, pour certains, ont été parrainés par des membres de l'Élysée, de Monsieur le Président de la République, qui ont été parrainés et donc qui se rendent à l'Élysée ou qui se rendent dans des ministères.
Et qui peuvent imaginer que ça peut être leur place un jour.
Et qui peuvent s'imaginer qu'il y a une vie après le quartier.
C'est ça.
Voilà. Et donc ça leur ouvre des perspectives. Et donc comment fait-on pour repérer ces jeunes ? C'est typiquement, comme je vous le disais, on est dans une association artisanale. Et c'est important de le dire. Nous sommes une quinzaine de membres actifs, c'est-à-dire des personnes qui s'investissent pour pouvoir faire aboutir les projets. Ce sont des projets annuels.
Mais comment ils viennent à vous ?
Alors, c'est pas eux qui viennent à nous,
c'est nous. C'est vous. Alors, comment vous allez vers eux ? Voilà.
Alors, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est le vivier universitaire, où on nous présente des profils. Ou alors, le deuxième vecteur, c'est des missions locales ou des structures sociales qui nous informent, en nous demandant si on peut parrainer des jeunes. Donc toujours le même critère, le mérite. Et le troisième critère, c'est dans le cadre de mon activité professionnelle où il m'arrive, je passe mon temps à essayer de trouver, entre guillemets, des jeunes méritants que l'on pourrait aider. Alors
Oui, parfois c'est dans des situations extrêmes même.
Tout à fait. J'ai eu une situation dramatique il y a quelques temps. Où on a un père de famille qui a égorgé son épouse. Et donc, il avait une jeune fille de 17 ans et demi. Elle avait 17 ans et demi à l'époque des faits, puisque ça s'était déroulé aux alentours du mois de mai. Et donc, elle s'est retrouvée avec le papa en prison. La maman qui est décédée s'est retrouvée toute seule. Et elle avait une force de caractère. En échangeant avec elle, elle me disait que donc elle allait passer son bac et que sa maman donc venait d'être assassinée, et elle me disait qu'elle avait passé son bac avec la photo de sa mère sur la table. On l'avait autorisée à mettre la photo de sa mère et qu'elle avait réussi son bac grâce à ça. Et elle trouvait pas de. Elle voulait s'inscrire dans le cadre. Elle voulait s'inscrire à l'université. Et avec Parcoursup, c'était un peu compliqué. Et donc, on l'a fait parrainer par la directrice de l'EDEC, qui a pu la suivre et lui faire intégrer une université. Et donc, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai encore des contacts avec elle. On ne peut pas dire qu'elle est tout à fait épanouie dans la vie.
Oui.
Quand on perd une maman dans
c'est
les circonstances,
ça. Oui, la vie n'a pas été tendre avec elle.
Non, tout à fait. On a une petite également que j'avais repérée à l'université. Elle venait en deuxième année. C'était des cours de droit pénal. Ce qui m'avait marqué, c'est que donc elle était une jeune fille de 20 ans. Aveugle. Elle venait avec son chien, il s'appelle Paradis, et milieu social particulièrement difficile. Quoi. Je souhaite à personne d'avoir la vie qu'elle avait. Et elle était en face de moi et je me suis dit, mais comment, quelle énergie elle doit déployer pour pouvoir lire des décisions de justice en braille, vous voyez ? Déjà que...
Que quand c'est pas en braille, c'est pas facile à comprendre.
Mais voilà, et vraiment... Et j'ai été vraiment bouleversé par cette jeune fille. Donc je suis allé la voir et puis j'ai échangé avec elle. Et puis elle a été... on l'a parrainée. Et c'est le préfet de région, la région des Hauts-de-France, qui l'a parrainée. Et qui tous les mois, la recevait, cette étudiante, dans son bureau. Et je me souviens de... Elle était en troisième année et c'était difficile pour elle, notamment le contentieux administratif. Et elle voulait arrêter... Et je sais que le préfet l'a accompagnée et aujourd'hui, elle a eu son Master 2. Vous voyez, je peux vous en donner encore dizaines d'exemples comme ça. Alors, c'est une goutte d'eau, mais si ça a permis de donner un petit peu de réconfort à ces jeunes qui sont en souffrance, le contrat est rempli. Mais ce n'est pas une vocation non plus.
Bien sûr. Mais alors, je voudrais qu'on termine cette émission qui, malheureusement, arrive près de son terme. Aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie sont particulièrement complexes. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas le vôtre non plus. Mais vous avez une expérience avec l'Algérie. Vous avez fait de la formation technique, vous retournez régulièrement en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter...
Au niveau du ministère de l'Intérieur, on se situe pas tout à fait dans un registre entre guillemets politique.
Bien sûr.
Nous sommes exclusivement dans un registre technique. Voilà. Et donc, il y a quelques années, je suis allé. À la demande du ministère, aller former des policiers algériens à l'école à Alger. Ce qui est d'ailleurs une bonne chose, puisque ça montre aussi qu'il n'y a aucune difficulté entre le peuple algérien, l'Algérie, les gouvernants algériens et puis la France, en tout cas de mon côté.
Oui.
Je n'ai jamais constaté...
Vous avez été bien accueilli.
J'ai été plus que bien accueilli. C'est-à-dire que j'ai été mis en confiance, puisque je vous avouerai que c'est pas non plus évident quand mon père a combattu contre l'Algérie de se rendre sur place et de faire abstraction de ça. Ça s'est très très bien passé et il y a encore 3 ans, je suis allé à Alger pour une conférence, l'échange sur la question du renseignement. Et c'était effectivement la même chose. Nous avons d'excellentes relations avec les autorités algériennes et je m'en félicite parce que c'est effectivement...
En connaissant cette histoire douloureuse des deux côtés de la Méditerranée.
Oui, de toute façon, l'histoire, on ne l'efface pas.
Bien sûr.
Après, ce sont des choix qui ont été faits à un moment donné. Et la question des relations entre nos deux pays, ce sont des relations fraternelles. Moi, je suis intimement convaincu que à partir du moment où on est d'origine algérienne, les Algériens nous disent c'est un Algérien. Moi, je me sens français. Je suis français. Mon pays, c'est la France. Mes valeurs républicaines, ce sont la France. Ce sont celles de la France. Et puis, si l'Algérie s'y retrouve, c'est une bonne chose, puisque l'objectif, c'est pas avoir des conflits avec qui que ce soit. Au contraire, c'est de travailler. En tout cas, moi, ça a toujours été mon objectif. C'est de servir la France et surtout les Français dans la sécurité du quotidien.
Ce qui veut dire que, finalement, dans les rapports politiques sont compliqués en ce moment, sont difficiles. Mais les rapports de peuple à peuple, ça peut être des rapports fraternels.
Alors, moi, je ne me prononcerai pas sur les relations politiques.
Bien sûr,
difficiles
non,
ou pas difficiles.
C'est pas le sujet.
En plus, je n'en sais rien du tout. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre nos deux pays, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport aux expériences que j'ai vécues, ce sont des relations exceptionnelles.
Et pourquoi on n'arrive pas, je boucle avec les révoltes urbaines, Abdelkader, Haroun, pourquoi on n'arrive pas à retrouver cette fraternité dans des cas extrêmes et paroxystiques comme ça? Parce que pour l'immense majorité des Algériens, français, des Français d'origine algérienne, l'intégration s'est faite.
Alors tout à fait, là, vous avez bien fait de le dire que l'intégration s'est faite. Est-ce qu'il faut accorder de l'importance à des épiphénomènes, c'est-à-dire une frange infime de la population qui n'a pas envie de s'insérer? Moi, je suis pas convaincu que les relations entre la France et l'Algérie, c'est ça, c'est pas
vrai.
Voilà, moi je suis pas convaincu que... Je pense au contraire qu'on est dans une stigmatisation en essayant de dire les méchants c'est d'un côté, les gentils c'est de l'autre. Moi je dis tout simplement que nous avons une frange de la population extrêmement minoritaire qui veut pas s'insérer. Et c'est tout. Et ensuite, je suis convaincu que les difficultés vont se résorber avec cette police du quotidien.
C'est ça, et que c'est en introduisant autre chose que la répression. Oui, la répression, c'est le but de la police, pour terminer sur cette double mission finalement de la police, à la fois réprimer et à la fois assurer la sécurité, assurer le sentiment de sécurité de la population.
Alors, je terminerai également par ne pas oublier une réflexion sur le fonctionnement de notre justice pénale. Oui. La police sans la justice n'est rien. Et la justice sans la police n'est pas grand-chose non plus.
Eh bien, on restera sur cette conclusion. Merci infiniment, Abdelkader Haroun, d'avoir répondu à mon invitation ce soir. Esprit de justice est terminé. À la technique, il y avait Alexandre Dang. À la réalisation, Noé Mignard. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.